Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 7h sur Europe 1, merci de nous suivre.
Il y a une mécanique infernale, il y a un engrenage. Finalement, quand on ment, on est prisonnier de son mensonge.
Jonathan Daval, enfermé depuis 3 ans dans une spirale du mensonge, a finalement été condamné hier. Il écope de 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme Alexia. Verdict salué par les parents de la victime, vous les entendrez.
Les efforts ont payé, tous les chiffres le prouvent. L'épidémie de Covid est en train de reculer dans le pays. Des restrictions pourraient être levées dans les jours à venir, mais pas question de négliger les gestes barrières et la politique des tests. Les infirmières peuvent également vous dépister.
On fête un anniversaire aujourd'hui, celui d'Angela Merkel à la tête de l'Allemagne. 15 années de pouvoir et une popularité record.
Vous connaissez bien sûr Spider-Man, héros de bande dessinée et de film. Il est cette fois-ci à l'affiche d'un jeu vidéo.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
3 ans après la disparition de leur fille, ils sont sortis de la cour d'assises, soulagés comme délestés d'un poids. Les parents d'Alexia Daval ont obtenu gain de cause.
Ils n'ont pas eu toutes les réponses qu'ils attendaient, mais Jonathan Daval, le mari et meurtrier de leur fille Alexia, a été condamné hier à 25 ans de prison. De quoi fermer un chapitre de leur vie.
C'était 3 ans de calvaire.
Voilà.
On va faire simple.
3 ans de combat qui ont été très durs. Et on est content d'arriver au bout. La justice a bien fait son travail, a compris notre douleur et a compris le massacre d'Alexia en même temps.
Tout ça, c'était pour elle. Tout ce qu'on a fait, pour elle.
C'était juste pour elle. C'est nous regarde là-haut. C'est juste pour elle, ce combat.
La famille d'Alexia Daval au micro de notre correspondant dans l'Est, Arthur Mbaché. Pendant une semaine de procès, la cour d'assises de la Haute-Saône s'est penchée sur ce féminicide, l'un des crimes les plus retentissants de ces dernières années, en raison notamment de la personnalité et des premières réactions de Jonathan Daval, lui qui avait pleuré la disparition de sa femme devant les caméras. Retour sur ces mois de mensonges avec Jean-Jacques Herry.
Quelques jours après l'assassinat d'Alexia Daval, la France découvre son mari, Jonathan.
Alexia est ménagée et courir.
Et elle le découvre à travers ses larmes, des larmes qui coulent sur le visage juvénile d'un homme de 34 ans, venu participer à une marche blanche en hommage à son épouse. Sous l'œil des caméras, c'est soutenu par ses beaux-parents qui s'adressent à la foule.
Nous savions puiser de nos regards.
Aux obsèques de sa femme, Jonathan enfile le costume de leur mariage et le rôle du veuf est pleuré. Un rôle en effet, car rapidement les policiers ont des doutes. Bientôt, ils auront des convictions. D'ailleurs, 3 mois plus tard, c'est la garde à vue. Très vite, le mari craque. C'est bien lui qui a tué Alexia. Il a menti à tout le monde, se souvient Roland Coutenceau, psychiatre et criminologue.
Bien sûr, il y a un peu de stratégie. Alors, les gens diront une manipulation de la mise en scène. Mais ensuite, il y a une mécanique infernale. Il y a un engrenage, finalement. Quand on ment, on est prisonnier de son mensonge, jusqu'au moment où quelqu'un va déchirer le voile du mensonge, de la mise en scène qui a été la sienne.
Hier, Jonathan Daval a donc été jugé coupable. À l'énoncé du verdict, l'ancien gendre a tenté d'échanger un dernier regard avec ses ex-beaux-parents. Ses yeux se sont heurtés au vide.
Le récit de Jean-Jacques Herry pour Europe 1.
Ses yeux se sont heurtés au vide. Et justement, qu'en pense Stéphanie Gay, la sœur d'Alexia, qui ne reverra donc plus jamais sa sœur? Est-ce qu'elle pardonne à Jonathan Daval? On lui posera la question tout à l'heure à 8h15. Ce sont des chiffres que nous vous donnons quotidiennement. Et lorsqu'ils sont bons, eh bien, il faut les souligner également. L'épidémie de Covid-19 est bel et bien en train de ralentir en France.
Il y a moins d'entrées à l'hôpital, moins d'entrées dans les services de réanimation. Il y a moins de nouveaux cas également, malgré les tests qui, eux, sont toujours pratiqués en nombre, et notamment les tests antigéniques, ces tests ultra rapides. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'aller au labo pour se faire tester. Les infirmières, désormais, sont habilitées. Exemple en Meurthe-et-Moselle, avec le reportage de Mélina Fachin dans la petite commune de Richard-Ménil.
Entre 2 visites à ses patients, Claudine, infirmière libérale, tient la permanence de ce petit centre de dépistage.
Alors aujourd'hui, j'ai commencé ici à 10h du matin, je vais partir vers 13h je pense, et je ferai la fermeture de 16h à 17h.
Entre-temps, c'est Olivier, le pharmacien du village, qui prendra la relève.
Niveau organisation, c'est pas évident, mais dès quelqu'un a 1 heure ou 2, il vient sur son temps de repos, on va dire.
Les tests antigéniques sont remboursés à Claudine et Olivier, mais les gants, les masques sont à leur charge.
Financièrement, non, je pense qu'on est plutôt perdant. Mais bon, après, on le fait avec plaisir.
La satisfaction de rendre service, ça n'a pas de prix.
Michel, venu se faire tester pour la première fois, habite dans la même rue.
C'est ce qui m'a décidé à le faire. C'est vrai que je ne serais peut-être pas allée sur Nancy.
Voilà. pas très agréable, mais ça y est, c'est fini.
Ça va, ça va. C'est notre pharmacien, notre infirmière, donc on est en terrain de confiance.
15 minutes plus tard, le résultat tombe, négatif. Sur une centaine de personnes testées en 3 jours, 3 ont été positives. Richard Ménil, Mélina Fachin pour Europe 1.
On le disait, il y a moins d'hospitalisation, moins de tension donc dans les hôpitaux qui ont dû déprogrammer de nombreuses opérations ces dernières semaines.
Pour la première fois, une étude a réussi à chiffrer tous ces reports. Elle est publiée dans le JDD ce matin. Écoutez la rédactrice en chef, Anne-Laure Barré.
L'étude montre que 2 millions de séjours ont été annulés dans les hôpitaux et dans les cliniques pendant la première vague. Ça veut dire que beaucoup d'opérations et d'examens ont été reportés. Il y a des choses apparemment bénignes, comme des opérations de la cataracte, mais il y a aussi des examens très importants qui permettent de diagnostiquer par exemple les cancers colorectaux ou bien des transplantations rénales. Près de 3/4 des transplantations rénales ont été annulées au printemps. Ce qu'on sait, c'est que les malades atteints de formes graves du Covid, ils restent plus longtemps en réanimation que des malades qui relèvent d'opérations par exemple. Donc les hôpitaux ont mis longtemps à se vider après le déconfinement. Tout l'été, les médecins, les chirurgiens dans les hôpitaux, ils ont opéré beaucoup, mais ils n'ont pas pu encore rattraper tout le retard. Et ce que craint Frédéric Valtoux, qui est le porte-parole des hôpitaux publics, c'est que l'hiver, donc après la fin de la deuxième vague, ne permette pas de rattraper tout ce retard, parce que durant l'hiver, les hôpitaux sont toujours saturés par les épidémies de grippe, de bronchiolite. Donc il y a fort à craindre que ce retard ne soit pas rattrapé avant de nombreux mois.
Anne-Laure Barré, rédactrice en chef du journal du dimanche que vous pouvez lire. Il est en kiosque, allez-y.
S'agissant des traitements contre le Covid, on est toujours à la recherche d'un médicament efficace. On apprend que les États-Unis ont décidé d'autoriser le traitement qu'avait pris Donald Trump, un traitement aux anticorps de synthèse.
En France, cette deuxième vague est donc sur le point d'être maîtrisée. Emmanuel Macron devrait alléger les contraintes pour le mois de décembre.
Le chef de l'État s'exprimera mardi soir alors que de nombreux commerçants demandent à rouvrir en urgence. On évoquait les magasins de jouets dans le journal de 6h tout à l'heure. Le patron de Jouet Club d'ailleurs sera votre invité, Pierre, à 7h40. Autre profession très touchée, les libraires. Ils ont dû s'adapter depuis le début du confinement en développant notamment le click and collect. Alors quelle est leur situation aujourd'hui ? État des lieux avec Angèle Châtelier.
Les mémoires d'Obama, le dernier Riyad Satouf, sont les livres les plus achetés en ce moment et permettent aux librairies de conserver un peu de chiffre d'affaires. 80% pour la librairie parisienne Les Traversées. Antoine Front, son directeur, est même épuisé du rythme de commande entre les envois et les clients qui viennent chercher leurs livres.
Alors c'est crevant parce que c'est pas du tout le même métier que celui qu'on fait d'habitude. On a des commandes qui arrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut commander les livres qu'on n'a pas, il faut surveiller parce que les gens ont payé ou n'ont pas payé. Après ça, nous on sait pas faire. Enfin, on ne sait pas faire. On a appris, mais on n'a pas de matériel pour faire des colis. Donc, c'est du bricolage, quoi.
Sur les 3300 librairies du pays, plus de 800 sont inscrits sur le site de vente en ligne inventé par la profession Place des Libraires. Il y a 40 000 commandes par jour. Satisfait, François Boujard, son PDG, espère que ces nouvelles habitudes de consommation vont perdurer au-delà du confinement.
Il y a un afflux de magasins qui se disent, ben voilà, il faut que j'y sois. On espère qu'il y a une lancée qui est prise et que c'est des nouveaux clients, des nouvelles habitudes qui vont se prendre dans les usages des clients des librairies.
Même si la vente en ligne ne remplacera jamais les bons conseils d'un libraire.
Angèle Châtelier.
Et puis c'est une conséquence que l'on avait déjà observée lors du premier confinement qui se vérifie depuis le 1er novembre. Il y a moins de monde sur les routes.
Et ceux qui s'y trouvent roulent plus vite. Plus de 50% de grands excès de vitesse, c'est-à-dire ceux qui sont supérieurs de 50 km/h à la vitesse maximale autorisée. C'est la conclusion du Centre d'études sur les risques et la mobilité. Les autorités craignent d'ailleurs que les conducteurs prennent de mauvaises habitudes, Aude Leroy.
C'est une véritable pluie d'excès de vitesse partout en France. Début novembre, par exemple, du côté de Bayeux, deux salariés font la course sur une nationale à 200 km/h au lieu des 80 autorisés. Et en Isère, sur une départementale cette fois, c'est un homme qui roule à 137 km/h au lieu de 50. Depuis le début du second confinement, les excès de vitesse de plus de 50 km/h notamment ont bondi de 50% en ville, sur autoroute, mais surtout sur le réseau secondaire, ce qui inquiète le colonel Colorig, chef de l'UCLIR, l'unité de coordination de la lutte contre l'insécurité routière.
Ça nous inquiète parce qu'une route départementale, une route nationale, a des virages, traverse des villages. Les routes ne se prêtent pas du tout à de grands excès de vitesse. Notre crainte, c'est que quand il n'y aura plus de confinement, que les gens qui ont pris l'habitude de rouler très vite, se pensant seul ou se voyant seul sur la route, ne perdent pas cette habitude et que cela crée des accidents très graves.
Les premières victimes sont les cyclistes, plus nombreux sur les routes. Leur mortalité a augmenté de 23% depuis la fin du premier confinement.
Les précisions d'Aude Leroy. Et puis sachez que cette deuxième vague a plutôt profité à l'exécutif. Entre guillemets, la cote de popularité d'Emmanuel Macron progresse de 3 points par rapport au mois dernier, selon le baromètre IFOP publié dans le JDD.
7h10 en Allemagne, on l'appelle la Mutti, la mère de la nation. Angela Merkel fête en effet aujourd'hui son 15e anniversaire au pouvoir.
La chancelière a prêté serment pour la première fois le 22 novembre 2005, ce qui veut dire qu'elle a connu 4 présidents français. 15 ans donc au pouvoir et une popularité qui bat des records. 74% d'Allemands sont satisfaits selon un dernier sondage. Les raisons de cet engouement avec Hélène Kohl à Berlin.
La chancelière est catégorique. Un 5e mandat ?
Nein, wirklich nicht.
C'est non, vraiment pas. Elle quittera donc ses fonctions l'an prochain sans jamais avoir été prise en défaut. Aucun scandale. Les Allemands, évidemment, n'apprécient pas toujours sa politique, mais ils saluent son sens du devoir, son humilité, sa force de travail. La crise du coronavirus l'a encore montré. Merkel, la scientifique de formation, calme et réfléchie, est comme un rocher dans la tempête, explique Angela Ulrich, journaliste politique à Berlin.
Ça, je crois, a renforcé encore la confiance en elle. Elle est très pragmatique et en même temps, elle a une grande autorité parmi ses collègues.
À l'international surtout. Joe Biden sera le 4e président américain avec lequel elle va travailler. Et quand elle a prêté serment il y a 15 ans, Jacques Chirac était encore au pouvoir. Elle est un gage de stabilité dans un monde agité, quitte à ce que ça pose problème indirectement à son parti, la CDU. Comment sortir de l'ombre de Merkel ?
Les 3 candidats pour la succession de Merkel ne semblent pas aptes. Je crois que le parti a un grand problème à gérer.
Or, les élections législatives sont dans 10 mois. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Toujours à l'étranger, le sommet du G20 se poursuit ce dimanche, sommet virtuel en raison de la pandémie. Hier, Donald Trump a fait une apparition derrière son ordinateur pour vanter son bilan à la tête des États-Unis. Il s'est ensuite éclipsé pour aller jouer au golf.
D'habitude, quand on vous parle de judo, Teddy Riner n'est pas très loin. Bah aujourd'hui, c'est sans lui que les Bleus sont en train de cartonner. Les judokates, notamment, font un véritable carton, pour ainsi dire.
5 médailles d'or depuis le début des championnats d'Europe. Ça n'était jamais arrivé pour les Français. Écoutez l'enthousiasme de Roman Dico, titré hier.
Je suis vraiment contente. Bah, je crois que c'est un record en plus, donc c'est vraiment super cool. Et je pense qu'on a une très très belle équipe et ça en dit long sur tout le travail qu'on fait et surtout ce qu'on fait à l'entraînement tous les jours. C'est super gratifiant, je pense aussi, de savoir que malgré tout ce qui s'est passé, malgré ces longs mois d'arrêt, on peut reprendre présence sur les grands rendez-vous. Les Europes, c'est pas du tout une fin, c'est le début de la nouvelle saison post-report des Jeux. Donc on continue de plus belle pour essayer d'avoir de nouvelles médailles l'année prochaine.
Roman Dico, championne d'Europe des plus de 78 kilos avec Axel May. Enfin, il ne vous aura pas échappé que Noël, c'est dans un mois. Et bien, on vous glisse ce matin une idée l'air de rien. Idée cadeau pour les fans de jeux vidéo. Spider-Man en est le héros et notre geek maison, Clément Le Saffre, a validé.
Tu dois prêter serment.
Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette ville. Je promets.
Dans ce jeu, Peter Parker, le Spider-Man historique, part en vacances. Alors en son absence, c'est Miles Morales, autre garçon mordu par une araignée radioactive qui assure l'intérim. Et c'est évidemment pile à ce moment-là que New York est attaqué.
Tu penses pouvoir battre tes fureurs, Erickson, mais tu peux pas.
À chaque fois que j'ai l'impression d'être vraiment Spider-Man, je fais tout foirer.
Notre famille n'abandonne pas.
Manette en main, c'est un vrai plaisir, se balancer de toile en toile entre les gratte-ciel de New York est tout simplement jouissif. Malgré un scénario un peu court, on se plaît à simplement se balader dans la grosse pomme enneigée en quête de criminels à arrêter. Mais c'est surtout l'occasion de découvrir Miles Morales, le nouveau visage de Spider-Man casse les codes du genre. Moitié latino et moitié afro-américain, un brin maladroit, il apprend à devenir un super-héros sur le tas.
Chaque fois que tu dis Spider-Man, c'est pour parler de l'autre. C'est toi, Spider-Man. Tu peux y arriver. À ta façon.
Déjà héros d'un film d'animation il y a 2 ans, désormais vedette de jeux vidéo, Miles Morales incarne une modernité qui manquait cruellement aux super-héros.
Le verdict de ce nouveau jeu Spider-Man avec Clément Le Saffre.
Vous l'avez essayé ou pas?
Bah non. Je vais aller chez Clément peut-être. C'est lui qui a tous les jeux vidéo.
Vous avez le droit
et... Je sais pas
s'il
me laissera rentrer.
De chez vous.
Ah oui, non, c'est vrai.
Ah oui, j'aime bien. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Alors, en tout cas, ça a l'air plus moderne que la version que j'ai connue dans mon enfance. Hein. L'araignée, c'est quand même bien loin tout ça. Merci Marguerite Lefebvre.